France Culture.
Dans un rapport de plus de 300 pages dévoilé aujourd'hui, la Fondation pour le logement des défavorisés, anciennement Fondation Abbé Pierre, a dénoncé une véritable crise du mal-logement. 350 000 personnes sont actuellement sans domicile, un niveau inédit qui a doublé entre 2012 et 2025. Autre record, plus de 100 000 personnes vivant dans des lieux de vie informels que sont les squats et les bidonvilles ont été expulsées en 2024. La Fondation dénonce une posture répressive vouée à l'échec si elle ne s'attaque pas aux causes. Alors justement, quelles sont ces causes? Étroitement corrélées au parcours individuel de celles et ceux qui vivent dans ces bidonvilles, il faut, pour comprendre le phénomène, comprendre aussi les trajectoires économiques et sociales, mais aussi les politiques de gestion de cette question, à la fois à l'échelon national, mais aussi à l'échelle locale. C'est donc en Seine-Saint-Denis que nous nous rendons aujourd'hui, où se trouvent les deux tiers des habitants des bidonvilles d'Île-de-France. Le département compterait environ 25 de ces bidonvilles à l'heure actuelle. Alors comment expliquer la persistance de cette réalité à la fois spatiale et sociale alors que dans les années 70, on était censé y avoir mis fin? Comment s'organise la vie économique au sein de ces bidonvilles et quelles politiques sont menées face au phénomène? C'est à toutes ces questions qui interrogent des décennies de politique sociale et de politique du logement que nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, mise en onde par Ludovic Auger et réalisée par Françoise Lefloc. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui et à distance. Élise Roche, vous êtes professeure en aménagement de l'espace et urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Lyon au sein de l'Université Lyon 2, au sein lui-même du laboratoire Triangle. Et vous êtes l'autrice d'un ouvrage, Reloger les habitants des bidonvilles, un urbanisme en marge. C'est paru aux presses universitaires de Rennes en 2022. Bonjour Élise Roche.
Bonjour.
Thomas Aguilera, vous êtes également avec nous à distance. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Rennes au laboratoire à Rennes et votre ouvrage s'intitule « Gouverner les illégalismes urbains, les politiques publiques face aux squats et aux bidonvilles dans les régions de Paris et de Madrid ». C'est donc le titre de votre ouvrage paru chez Dalloz en 2017. Bonjour et bienvenue à vous. Ah, je ne sais pas si la connexion se fait avec Thomas Aguilera. Bonjour, j'en profite pour remercier Ferdinand Prévost qui assure la liaison depuis les studios d'ici à Rennes où vous vous trouvez, Thomas Aguilera, et également Chantal Nouvello qui gère, elle, le duplex depuis les studios de Radio France à Lyon. Et puis vous serez tous deux rejoints au cours de l'émission par Olivia Mercier. Olivia Mercier, vous avez été travailleuse sociale pendant 10 années sur des programmes de relogement et vous êtes actuellement doctorante au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, le fameux LIS, au CNAM, et vous nous raconterez ce que vous avez vu puis étudié lorsque vous étiez coordinatrice sociale au sein de l'association Assina de 2017 à 2022 en Seine-Saint-Denis. Et puis je précise aussi que votre thèse en sociologie est soutenue par la ville de Paris, une thèse qui porte sur les formes de partage et de réemploi alimentaire dans les quartiers populaires parisiens, notamment autour de la question du glanage alimentaire en fin de marché. C'est important de le préciser. Je vous interviendrai un peu plus tard, mais je vous salue tout de même. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Alors en mars 2019, la préfecture d'Île-de-France recensait 124 bidonvilles, soit 6512 personnes. Dans quelle mesure, Thomas Aguilera, le département de la Seine-Saint-Denis est-il particulièrement concerné par le phénomène ?
Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Déjà, en termes historiques, c'est un département qui a toujours focalisé l'attention des pouvoirs publics, de la presse, mais aussi du tissu associatif et militant autour de ces questions de mal-logement et notamment de bidonville, de lieux de vie informels. Et puis, une autre façon d'y répondre, c'est de compter et d'essayer de compter ces lieux de vie informels et particulièrement les bidonvilles. Et on a toujours constaté qu'en Ile-de-France, la Seine-Saint-Denis a été un espace dans lequel on a retrouvé la majorité des habitants des bidonvilles, avec un certain nombre de terrains qui sont occupés, mais aussi des friches de divers types. Et cette place en région Île-de-France et même en France est relativement stable, puisque on constate, on va en reparler, que même lorsqu'il y a des expulsions, en fait, les habitants des bidonvilles se débrouillent et essayent de survivre dans des terrains qui sont assez proches pour réouvrir des lieux de survie. Et donc, en fait, il y a une forme de stabilité. Et puis, politiquement, effectivement aussi c'est un département où donc un département pauvre où les pouvoirs publics tentent eux aussi de s'en sortir, à la fois de mener des politiques sociales et de logement, et également sous pression d'autres acteurs, notamment des préfectures, pour réguler l'ordre public. Et donc c'est un territoire à enjeu.
On va voir effectivement quels sont ces enjeux précisément, et notamment autour de la question des expulsions et potentiellement du relogement. Restons sur un tout petit peu les chiffres, Thomas Aguilera, puisque vous faites également partie du comité scientifique qui est mobilisé dans le rapport annuel de l'Observatoire des expulsions de lieux de vie informels. Alors je citais en introduction les chiffres de la Fondation pour le logement des défavorisés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce chiffre de plus de 100 000 expulsions? Est-ce que c'est à travers les expulsions qu'on arrive justement à recenser une population qui, par définition, passe un peu sous les radars?
Alors effectivement, par définition, on est en train de parler de lieux de vie informels, et la définition d'informel, c'est ce qui passe sous les radars des repères de l'État, notamment la cartographie, la statistique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il existe donc une délégation interministérielle au niveau de l'État qui a essayé de mettre en place un certain nombre d'outils pour développer des statistiques. Ce qui est compté, c'est qu'il y aurait un millier de personnes à peu près qui résideraient dans des bidonvilles en Seine-Saint-Denis, probablement plus, puisqu'on sait que c'est pas exhaustif. Ça, c'est de la donnée publique qui vient de remonter, de données dont on pourra reparler aussi, qui est assez controversée dans les milieux associatifs. D'un autre côté, il y a des chercheurs qui tentent de recenser comme ils peuvent et elles peuvent des données à partir des réseaux associatifs, mais aussi des revues de presse, ce qu'on a pu faire, Élise et moi par exemple, et bien d'autres. D'autres façons aussi de repérer les gens qui vivent dans ces bidonvilles expulsés, c'est de compter le nombre de fois où ils sont expulsés. Alors, ce qui suppose d'être assez attentif sur le territoire, ouais. Et aussi d'éviter de compter donc des doublons. Et donc il y aurait un millier de personnes aujourd'hui résidant dans des bidonvilles en Seine-Saint-Denis selon la DIAL, et l'Observatoire des expulsions a repéré, si on compte que les bidonvilles, à peu près 500 personnes qui auraient été expulsées de bidonvilles. Et le chiffre des 100 000 rassemble tout type de lieux de vie informels. Donc en fait, il faut le décomposer si on veut vraiment parler des bidonvilles.
Dont les squats, effectivement, et on reviendra, Thomas Aguilera, sur cette distinction entre ces lieux de vie informels qui sont regroupés sous cette bannière-là. Élise Roche, on le disait, la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire très spécifique. Alors en termes de quantité, on l'a vu, mais aussi en termes d'enjeux qui sont très particuliers à ce territoire-là. C'est un territoire qui est situé au nord-est de Paris, qui fait 236 km², ce qui en fait un des plus petits départements de France, juste devant les Hauts-de-Seine et Paris en soi. C'est aussi un des plus pauvres de la métropole. 27,6% de la population y vit en dessous du seuil de pauvreté. Élise Roche, en 2008, vous étiez fonctionnaire à la mairie de Saint-Denis. Comment est pris en compte dans ce contexte-là le phénomène des bidonvilles à l'époque? De quoi se préoccupe-t-on, au nom de quoi se préoccupe-t-on de cette forme de mal-logement que sont les bidonvilles?
Alors, à cette période-là, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, il y avait une prise de conscience croissante de l'habitat bidonville qui était présent, qui a jamais vraiment cessé d'être présent, mais qui était à nouveau visible depuis les années 90 de façon importante. Et à ce moment-là, dans les années 2008, c'est un moment de cliquer d'une certaine façon avec l'émergence de nouvelles solutions vues comme des solutions par les pouvoirs publics, notamment sous la forme de ce qu'on a appelé par la suite des villages d'insertion. Donc c'est dans cette période-là qu'émerge le village d'insertion d'Aubervilliers, dont Thomas Aguilera pourra sans doute parler davantage que moi, et du village d'insertion du Fort de l'Est, qui va être mis en place par l'État sur le territoire de Saint-Denis. Donc c'est un moment de déclenchement, on va dire, d'initiative locale pour essayer des pistes de résorption, alors parfois très partielles, hein, dans le cas du village d'insertion du Fort de l'Est, et parfois plus globales sur un ensemble sur l'ensemble de la population de certains bidonvilles.
Alors des pistes de résorption, vous l'avez dit, Élise Roche, mais très concrètement, qui se préoccupe de la question des bidonvilles? En fait, j'ai trouvé l'introduction de votre ouvrage extrêmement intéressante et instructive de ce point de vue-là. C'est que, vous le dites d'emblée, il y a quand même des conflits d'usage message assez fort, et on en revient aussi à ce contexte très particulier qui est celui de la Seine-Saint-Denis, dans un contexte notamment de proximité très grande avec la capitale aussi, où le marché du logement est saturé, où il y a une très grande pauvreté aussi. Dans quelle mesure ce phénomène des bidonvilles, il est pris en compte aussi à travers ce prisme du conflit, pas forcément d'usage, mais en tout cas du conflit de terrain, on va dire, dans quelle mesure c'est aussi les habitants qui font remonter ça et auprès des élus locaux. Est-ce que c'est souvent à travers ce prisme-là qu'on s'intéresse à la question des bidonvilles ?
Alors, c'est certain que dans la période des années 2010, il y a jusqu'à 8 bidonvilles, par exemple, sur le territoire de la ville de Saint-Denis. Quand on parle de bidonvilles, ça peut être quelques dizaines de personnes, mais ça peut être plusieurs centaines, hein, jusqu'à 500, 600 personnes. Donc, évidemment, des installations de personnes sans aucun réseau, sans évacuation d'eau, sans accès à toutes les aménités de base auxquelles on a en principe accès en ville, ça a des impact sur la gestion urbaine. Ça a d'abord des impacts sur la vie des personnes qui vivent dans ces conditions-là, évidemment, et des impacts sanitaires au premier chef. Et ça peut avoir des effets effectivement aussi auprès du voisinage. Des effets contrastés, hein. Alors pour le coup, vous l'avez rappelé, à cette époque-là, moi j'occupais des fonctions au sein de la mairie, les réactions des habitants pouvaient être assez contrastées. Il y avait des habitants qui pouvaient témoigner des désagréments qui pouvaient être occasionnés, mais il y avait aussi beaucoup d'habitants qui pouvaient s'indigner du fait que, par exemple, il n'y avait pas de toilettes qui étaient mises à disposition, ne serait-ce que des toilettes de chantier, de l'accès à l'eau, puisque les personnes des bidonvilles devaient, dans ces cas-là, aller jusqu'à des fontaines pour s'approvisionner en eau, et ainsi de suite. Donc des réactions assez contrastées, et je dirais aussi dépendantes du tissu local. On est dans un contexte avec un tissu associatif et militant qui est très riche et très très mobilisé, très très vif, j'ai envie de dire, et qui a pu être déterminant à certains moments. Par exemple, au moment de l'expulsion du bidonville du Hanoul, hein, que j'ai pu étudier donc dans le livre dont vous rappeliez le titre. Un très vieux bidonville, hein, ça a été considéré comme un des plus vieux bidonvilles d'Île-de-France. Et c'est la mobilisation du tissu associatif qui a pu contribuer à la prise en charge du relogement des personnes de ce bidonville, outre la mobilisation des personnes elles-mêmes.
Oui, puisqu'on le rappelle, ce fameux site du Hanoul est l'objet d'un protocole d'accompagnement de la mairie, comme on dit, et puis à partir de 2003, et puis est l'objet d'une forme de démantèlement, en tout cas de mesures d'expulsion à partir du 6 juillet 2010. Thomas Aguilera, vous soulignez une autre spécificité de ce territoire francilien dans lequel s'inscrit la Seine-Saint-Denis. En Île-de-France, dites-vous, si des collectivités locales ont mis en place des projets, aucune coordination métropolitaine ou régionale n'a vu le jour. La gouvernance des bidonvilles n'y fait pas métropole, ne s'y fait pas, et la métropole reste éclatée. Thomas Aguilera, est-ce que c'est ça qui explique aussi un phénomène propre au territoire de la Seine-Saint-Denis, qui serait celui de la persistance de ces bidonvilles à travers les décennies, qui serait ce manque de coordination?
Alors, la coordination, elle peut se voir à plusieurs niveaux. La question que vous avez posée à Élise est également, on va dire, verticale, c'est-à-dire quels sont les acteurs qui s'intéressent, qui donnent à voir, qui comptent, qui recensent et qui mettent du budget sur la table pour résoudre la question des bidonvilles et de quelle manière. Donc là, on peut évoquer l'État, les préfectures, les collectivités locales, des citoyens, mais aussi la coordination et de quelle manière ces acteurs se coordonnent et qui coordonnent. Et la coordination, elle pose aussi la question territoriale, c'est-à-dire que effectivement, vous avez lu un passage qui évoque le fait que entre les années 2010-2015, beaucoup d'expérimentations sont mises en place au niveau des municipalités. Quand je dis beaucoup, bon, il y en avait une quinzaine, vingtaine dans les années 2010. Mais c'était pas rien et ça a impulsé une dynamique par ces collectivités. D'un autre côté, l'État était présent par des préfectures, quelques programmes partiels, mais en fait, il n'y avait pas de coordination au niveau de préfectures de région. Il y avait une certaine frilosité parce que coordonner, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire prendre des habitants de bidonvilles qui étaient potentiellement en Seine-Saint-Denis et dans certaines communes, donc Saint-Denis-Montreuil, et les reloger projets dans des territoires qui seraient autres que ceux où ils sont, où ils ont été recensés. Et en réalité, là, il y avait un jeu entre les municipalités, même au sein, en Seine-Saint-Denis, mais aussi entre les municipalités de Première Couronne et d'Île-de-France, sur qui allait accueillir en fait ces habitants qui potentiellement auraient pu être intégrés dans des programmes de relogement ou d'insertion sociale. Et donc en fait, cette coordination, cette double coordination à la fois des acteurs entre eux à différentes échelles et des différents territoires n'a jamais été résolue et n'a jamais été posée frontalement dans la métropolisation du Grand Paris. Et il y avait des obstacles assez clairs, et notamment au niveau de l'État, pour éviter de coordonner quelque chose qui n'était pas coordonnable, puisque ça renvoyait à des questions politiques locales.
Et puis coordonner, ça veut aussi potentiellement dire rendre visible, et on sait aussi que c'est une question, et on l'a entendu avec Élise Roche, une question particulièrement épineuse. On a bien compris quelles étaient les spécificités de ce territoire de la Seine-Saint-Denis. On va revenir sur les parcours aussi plus individuels des personnes qui vivent dans ces bidonvilles. Il faut tout de même avoir un panorama plus large, Élise Roche. Il faut préciser que l'ensemble du territoire français est concerné par le phénomène des bidonvilles. Selon la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, environ 15 200 personnes vivent en bidonville sur environ 400 sites fin 2024 dans la métropole. Et puis on peut rappeler aussi que le passage du cyclone Chido à Mayotte a mis en lumière le fait que 40% des habitations du département étaient en réalité des maisons de tôle appelées bangas. Très concrètement, Élise Roche, quelle réalité recouvre ce terme de bidonville ?
Alors oui, c'est une bonne question. Ce qu'on appelle en général bidonville, c'est un habitat qu'on qualifie d'irrécupérable. Ça veut dire que qu'il est précaire, qu'il est en mauvais état, qu'il est souvent fait de matériaux de récupération. Il est irrécupérable, mais avec de la récupération. Il est souvent situé sur des terrains qui sont occupés irrégulièrement, sans droit ni titre, comme on dit. Voilà, donc. Concrètement, ça peut donner des cabanes autoconstruites avec une grande variété de types de construction. Là où il y a une petite nuance qui est pas complètement évidente et qui est de plus en plus complexe à identifier, c'est le terme de bidonville, il est souvent utilisé en concurrence avec le terme de campement. Et notamment pour le ministère de l'Intérieur, notamment le terme de campement illicite. Donc l'usage du terme de bidonville, en fait, c'est le reflet d'une rivalité taxonomique, on pourrait dire. Il y a un enjeu de définition, un enjeu sémantique. Ce qu'on va qualifier de campement et notamment de campement illicite va être désigné quelque part à l'expulsion, désigné à être expulsé, à ce qui est démolition des biens des personnes et de leur construction, fût-elle précaire.
Au nom de ce caractère illégal, du caractère illicite.
Voire au nom de la sécurité des occupants, ce qui manque pas d'être paradoxal, des fois, quand les constructions sont à proximité d'une autoroute, par exemple, ou d'un faisceau ferroviaire, ou des choses comme ça. En revanche, ce qui est désigné en tant que bidonville est davantage, en théorie, l'objet de processus de résorption qui devrait faire l'objet d'un accompagnement pour relogement. Puisque le terme de bidonville, il vient s'ancrer dans son premier emploi dans le cadre législatif, c'est dans le cadre de la loi Debré en 1964, qui est une des premières lois qui va installer le principe de la nécessité de reloger les occupants en cas de démolition et de résorption des bidonvilles.
Thomas Aguilera, vous êtes, je le rappelle, vous avez participé à la construction du rapport annuel 2024 de l'Observatoire des expulsions de lieux de vie informels. Dans ce rapport, trois modes d'habitat sont concernés par les expulsions, les squats, les campements et les bidonvilles. En quoi le bidonville se distingue-t-il justement des deux autres formes que sont les squats et les campements ?
Alors oui, tout à fait, je souscris à ce que disait Élise sur la définition. Alors juste, je rebondis sur le caractère irrécupérable. En fait, c'est effectivement, ça fait partie de certaines définitions. Il y a celle de l'ONU qui est assez controversée sur l'accès aux services, accès au réseau, etc. Mais ce caractère apparemment irrécupérable, il faut quand même dire qu'il est territorialement différencié, selon qu'on soit en train de parler de la métropole, des Outre-mer ou d'autres pays et d'autres continents, puisqu'en réalité, on peut considérer qu'il y a des bidonvilles, donc en fait, quasiment 2 milliards de personnes vivent dans des bidonvilles sur Terre, et donc si on dit à ces habitants que c'est irrécupérable, en fait, eux, comme l'a dit Élise, utilisent des matériaux d'autoconstruction, en fait, réalisent de l'autoconstruction, donc il y a quelque chose qui est récupéré, entre guillemets, mais tel que c'est cadré en Europe et notamment en France ce caractère irrécupérable, destiné en fait à disparaître, à être rayé de la carte, est un obstacle à ce qui a failli apparaître comme une option, notamment auprès de la Fondation Abbé Pierre et d'autres collectifs qui travaillaient dans les bidonvilles dans les années 2010 et 2015. L'option, c'était celle de la normalisation in situ en fait des bidonvilles.
C'est-à-dire améliorer les conditions.
C'est-à-dire d'améliorer les conditions pour éviter à la fois des drames, pour stabiliser des situations. Mais je pense qu'Olivier en parlera mieux que moi tout à l'heure. Mais en fait, donc il y a ce caractère d'autoconstruction qui peut se stabiliser et qui n'est pas toujours tout le temps négatif et irrécupérable. Alors sur votre question sur le rapport que j'ai très modestement contribué, l'observatoire et le collectif Rome Europe notamment ont fait un travail remarquable de collecte de données, d'analyse et de présentation de ces données sur les expulsions de lieux de vie informels. L'appellation lieu de vie informel est un chapeau qui permet d'éviter un certain nombre de travers lorsqu'on parle d'habitat illégal, campement illicite, etc. Qui permet d'insister certes sur une dimension il y a à un moment donné une occupation d'un lieu, qu'il soit bâti ou simplement de foncier, qui est faite sans l'autorisation du propriétaire, qu'il soit public ou privé, mais qui n'est pas nécessairement, renvoie à la dimension illicite ou illégale des habitants. Et donc, ce chapeau lieu de vie informel permet aussi d'embrasser, en fait, des logiques de politique publique, de production d'indésirabilité, de vulnérabilité, des personnes qui y vivent de façon transitoire ou plus ou moins permanente, qui y sont expulsées de façon très régulière, entre 3 et 7, 8 fois par an. Mais aussi, d'un autre côté, c'est pour souligner le fait qu'il y a des habitants qui développent des réseaux sociaux, qui sont des ancrages territoriaux et des collectifs qui participent à la survie de ces personnes. Alors, dans les données, effectivement, qui sont présentes dans l'observatoire, il faut bien distinguer, puisque, en tout cas, le squat ne renvoie pas forcément aux mêmes logiques de visibilité, de racialisation et de traitement par les politiques publiques. Moi, c'est ce que j'avais montré, c'est-à-dire que en comparant les politiques publiques des squats et des bidonvilles, on voit, même s'il y a des habitants qui passent des uns aux autres, avec le squat qui est parfois considéré comme une forme d'abri, on voit que les politiques publiques ne vont pas, et les acteurs, ce ne sera pas les mêmes acteurs qui vont les traiter, ce ne sera pas les mêmes instruments, pas les mêmes formes de cadrage. Les bidonvilles ont toujours fait l'objet d'une forme de racialisation depuis le milieu du siècle, en France et partout dans le monde. Là, aujourd'hui, ça s'est matérialisé dans les années 2010 à aujourd'hui autour de la dite question Rome. Dans les années 50-60, c'était les Espagnols, les Portugais, puis les Algériens. Et donc, le bidonville a toujours transporté cette dimension raciale dans son traitement qui en est fait. Alors que le squat renvoie aujourd'hui, au-delà des squats plutôt militants, d'artistes ou politiques, renvoie à la dimension migrant. Et donc, on voyait dans les années 2010 des gens qui étaient appelés migrants lorsqu'ils étaient en squat, et puis lorsqu'ils étaient expulsés de squat, qui se retrouvaient en bidonville, étaient appelés des Roms. Et les catégories comme ça étaient fluctuantes. Et ensuite, il y a la dernière catégorie, les campements liés aux tentes, etc., qui renvoie à une dimension de marginalisation avancée, même dans le cœur de nos grandes villes, dans le cœur de Paris, par exemple, où il y avait moins de bidonvilles comme en Saint-Denis dans les années 2010, et là avec des traitements qui sont très liés à des politiques de harcèlement, d'expulsion systématique et des habitats assez temporaires et encore plus précaires.
Mais justement, Thomas Galliera, sur cette question de la racialisation qui caractériserait finalement la prise en compte aussi de ces bidonvilles, juste pour qu'on fasse un dernier point peut-être sur ce qui distingue ces différentes formes d'habitation. Il y a eu une actualité relativement récente. En juillet 2023, il y a eu la loi anti-squat qui a été promulguée, qui punit donc de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende les instigateurs de squat en faisant croire qu'ils sont propriétaires des logements. On a vu une forme de durcissement de cette ligne-là. Il n'en a pas été de même pour les bidonvilles. Qu'est-ce que ça nous dit de ce rapport à la propriété, que de fait, squatter un logement dont quelqu'un X ou Y serait propriétaire fait l'objet d'une plus grande répression que squatter un terrain? Est-ce que ça veut dire que les terrains sur lesquels se construisent les bidonvilles sont plutôt d'ordre public? Comment cette gestion, on va dire, de la loi et potentiellement de la morale vis-à-vis entre squat et bidonville nous raconte aussi quelque chose du rapport à la propriété et à la gestion aussi de ces populations qui s'inscrivent de fait dans la loi?
Alors oui, là on fait référence à la loi Kasbarian-Berger de l'année passée. Alors effectivement, ça s'insère dans une dynamique assez large de pénalisation de l'occupation qui était dite sans droit ni titre. Alors on préfère dire sans droit, sans titre, parce que les habitants ont quand même des droits. Et en fait, premièrement, c'est une tentative qui est répétée depuis les années 2000, fait, autour des squats, d'immeubles, et qui en fait aboutit à ce moment-là pour des raisons à la fois potentiellement politiques, aussi idéologiques, et d'un contexte assez général. Mais en réalité, cette forme de pénalisation, ça s'applique à toutes les formes d'occupation dites sans droit ni titre. Et sur le rapport à la propriété, pour y répondre, il faudrait qu'on prenne un petit peu plus de temps. Il faudrait en fait regarder ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Europe. Il faudrait comparer où en réalité la France est un pays plutôt de locataires, mais par rapport à d'autres pays. Et si on prend par exemple l'Espagne, où vous avez beaucoup plus de propriétaires, ou potentiellement le lobby des propriétaires, c'est pas péjoratif, mais dans les dynamiques de politisation de ces sujets-là, si on regarde en Espagne, cette pratique est pénalisée depuis 1995. Donc là aussi, il y a quelque chose à dire de ce côté-là. Donc c'est arrivé en fait, heureusement, mais en tout cas assez tardivement en France. Mais effectivement, on peut ici voir la façon dont ça compte sur les propriétaires et les multipropriétaires, ce qui est un enjeu aussi.
Élise Roche, une dernière question sur ces enjeux, mais qui vont plus loin que de simples enjeux sémantiques, qui sont aussi des enjeux politiques. Et je reprends là l'exemple du bidonville du Hanoul que vous avez particulièrement étudié. Il est démantelé, donc on l'a dit, en 2010, après un certain nombre d'années d'existence, plus d'une décennie. Or, vous le dites, Hanoul signifie auberge en langue romanie. Dans quelle mesure le terme même de bidonville est employé par celles et ceux qui vivent sur place? Je trouve que le terme auberge ne dit rien finalement de la réalité de cette existence, et en même temps il dit tout. Il y a quand même un décalage énorme entre la notion de s'implanter aussi et de durabilité du logement.
Alors le terme plus souvent employé par les personnes qui habitent en bidonville, ou en tout cas celles qui vont désigner leur lieu d'habitat en langue romanie, c'est plus souvent le terme de platz. Le lieu, la place, hein. Effectivement, enfin, ce que ça indique, c'est que c'est bien le lieu d'un domicile, c'est bien un lieu où l'on vit, où l'on échange, qui peut être un lieu ressource aussi pour des activités, y compris économiques, que ce soit des activités de récupération, des activités de recyclage partiel, liées à des activités de récupération notamment. Oui, c'est désigné comme ça. Après, le terme d'auberge, de caravane-sérail, on a dit aussi pour le Hanoul, ça fait partie de son histoire, qui est quand même un bidonville qui a eu une très longue vie pour la plupart des bidonvilles qui sont très souvent expulsés, et le fait que c'est un endroit où dès 2003, si je dis pas de bêtises, dès le début des années 2000, il y avait un protocole avec la ville de Saint-Denis pour permettre qu'il y ait un ramassage des ordures, pour permettre qu'il y ait un accès à des toilettes. Alors c'est un protocole qui a connu plein d'errements, hein, qui n'a pas toujours fonctionné, mais qui a peut-être contribué au fait que ce lieu-là soit pérenne et peut-être effectivement accueille, pour reprendre l'auberge, le terme d'auberge, accueille des populations, donc jusqu'à 100, 200 personnes successivement, y compris avec du coup une possibilité de scolarisation des enfants dans la continuité, puisqu'il y avait une durée suffisante pour cela. Et par la suite, quand il y a eu le processus de relogement, les personnes qui vivaient dans les sites de relogement, dont certains, enfin que j'ai pu rencontrer pour certains, étaient de très vieux Dionysiens, c'est-à-dire que ils avaient passé facilement 15 ans de leur vie à Saint-Denis, dans des espaces qui étaient séparés de 3 km au maximum entre le site du Hanoul et le site de relogement. Autrement dit, ce sont des lieux de vie où les personnes tisse des liens, évidemment, à l'intérieur du lieu, mais aussi avec ce qui entoure le lieu. Ça peut être l'école, ça peut être les commerces, ça peut être des associations.
Alors justement, pour bien comprendre comment ces lieux de vie s'incarnent et comment ces liens, vous l'avez dit à l'instant, Élise Roche, à l'intérieur même des bidonvilles, mais aussi en lien avec la proximité immédiate des territoires alentours, comment ces liens-là se tissent et s'organisent, on en parle juste après la reprise instrumentale du titre de Nougaro, Bidonville. Bien à l'écoute de France Culture, les bidonvilles de Seine-Saint-Denis sont aujourd'hui notre lieu de l'écho où s'incarne justement une économie spécifique et intrinsèquement liée aux conditions de vie particulièrement précaires qui sont celles qui accompagnent des conditions de logement insalubres, des conditions qu'Olivia Mercier a particulièrement observées et analysées. Olivia Mercier, vous êtes de retour dans cette émission. Je rappelle que vous êtes doctorante au LIS au sein du CNAM en sociologie, que vous avez été coordinatrice sociale au sein de l'association ASINA de 2017 à 2022 en Seine-Saint-Denis. Alors pour commencer, quelle est la mission précisément de cette association ASINA ? ASINA qui vaut pour accueil, coopération, insertion pour les nouveaux arrivants. Quelle était votre mission au sein de cette association ?
Alors ASINA, c'est une association loi 1901 qui a vu le jour quand le marché de l'emploi en France s'est ouvert aux personnes de nationalité bulgare et roumaine. Parce qu'il faut savoir qu'avant 2014, il y avait des mesures restrictives pour l'accès à l'emploi de ces personnes-là. Donc elle s'est créée en 2014 à l'initiative de Laura Mokanou et de Sarah Berthelot et d'un petit groupe de bénévoles qui ont d'abord débuté dans le Val-d'Oise sur un projet pilote mené en partenariat et en étroite collaboration avec les services déconcentrés de l'État et avec pour objectif d'accompagner vers l'emploi et le logement les personnes qui le souhaitaient. Alors vraiment la particularité de l'association ASINA, c'est une méthodologie qui est basée sur l'accompagnement de chacun et la co-construction avec les personnes en fonction de leur expérience, de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs compétences. Il y a vraiment cette notion de pleine implication de chaque personne dans la réalisation du projet de vie. Donc concrètement, quand on va sur les bidonvilles, on n'arrive pas avec des gros sabots en mode descendant. On est là, en fait, il faut savoir qu'on rentre chez les gens quand on va sur un bidonville. C'est des espaces de vie, donc on frappe, on sonne à la porte. On attend et donc voilà, il faut pouvoir aussi respecter ces lieux de vie qui sont des lieux intimes et aussi certaines personnes ne souhaitent pas nous parler. Donc on n'est pas là dans une obligation, c'est la libre adhésion des personnes et c'est aussi une notion qui est maintenant assez répandue mais qui en 2015 émerger de l'aller vers. Donc on va vers les personnes pour aller les rencontrer à leur rencontre et ne pas attendre qu'elles viennent forcément au guichet des institutions publiques.
Et puis vous l'avez dit, Olivia Mercier, il y a une dimension très importante, c'est celle de la nationalité des publics que vous rencontrez. On va voir dans la suite de l'émission comment tout cela s'est construit, mais effectivement la majorité des populations qui vivent dans les bidonvilles de Seine-Saint-Denis sont pour la grande majorité des ressortissants de l'Union européenne. Dans la plupart des cas, ils viennent de Roumanie. Or, c'est cette dimension que les programmes associatifs prennent en compte, cette dimension de la nationalité, ce qui n'est pas nécessairement le cas des programmes d'aide sociale mis en place par l'État. Pourquoi cette focale particulière ?
Oui, alors c'est vrai que c'est bien de le rappeler, de revenir sur cet élément très important. C'est-à-dire que quand on parle de bidonville en Seine-Saint-Denis, on a tout de suite l'image de campements illicites et d'ailleurs de campements illicites roms. Donc il y a, comme l'a dit Thomas, cette racialisation, cette ethnétisation qui fait que on voit les roms comme une ethnie supposée homogène. Et donc dans les discours médiatiques, politiques et même parfois par des associations, ces habitants sont fréquemment assimilés à une population à part à laquelle on attribue des caractéristiques culturelles stéréotypées tels que le nomadisme. Ça, c'est très important. C'est des populations qui viennent pour la plupart de Bulgarie et de Roumanie, mais qui ne vivaient pas dans leur pays d'origine comme des nomades. Ils étaient sédentaires. On leur associe aussi le travail informel et parfois délictueux, des réseaux mafieux ou encore l'exploitation des enfants pour la mendicité. Donc ces approches-là culturelles viennent complètement effacer la diversité que des personnes dites roms et favorisent aussi, il faut le dire quand même, un racisme contre les roms. On peut aussi parler d'anti-tsiganisme et ça c'est un vrai facteur de frein pour l'insertion et pour des politiques de relogement dignes de ce nom.
Oui, c'est ça, puisque la condition de résidence est extrêmement importante pour avoir accès à toute une série d'autres aides sociales. Or, c'est une des premières barrières finalement auxquelles sont confrontées ces populations-là. Dans quelle mesure il est possible de justement prendre en compte cet aspect-là du lieu de résidence pour contourner ou en tout cas pour surmonter certaines barrières administratives notamment.
Alors ça, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est vraiment le premier pas en général dans l'accompagnement social. C'est la domiciliation administrative, donc auprès d'associations ou auprès de CCAS, les centres communaux d'action sociale. Donc ce sont les CCAS qui sont compétents pour domicilier. Mais comme vous l'avez bien souligné, il y a souvent cet ancrage territorial qu'il faut prouver, démontrer pour pouvoir accéder à ce droit. Et du fait qu'ils vivent en bidonville et qu'ils sont donc des non-résidents à part entière sur le territoire, ils se voient refuser ce droit dans la majorité des cas, et ce qui empêche l'ouverture derrière, par exemple, ce qui empêche des fois la scolarisation des enfants, l'accès à l'emploi, l'accès à un compte bancaire, l'accès à une sécurité sociale.
Et c'est le serpent qui se mord la queue en termes de vulnérabilité notamment et d'accès à ces politiques sociales. Vous l'avez dit, Olivia Mercier, il s'agit là d'un lieu de vie, d'un lieu où des liens sociaux se tissent, se structurent. Très concrètement, comment la vie sociale se structure-t-elle, autour de quelle hiérarchie au sein des bidonvilles que vous avez pu observer?
Oui, alors juste une toute petite précision, c'est vrai que les habitants des bidonvilles, alors ils sont vraiment pas forcément, ils se revendiquent pas tous roms, comme je l'ai dit, il y a des Roumains, mais il peut y avoir aussi des Moldaves et des fois des Gadjés, donc ce sont les personnes qui sont non-roms. Il faut juste aussi préciser que cet habitat-là, le bidonville, n'est pas un mode traditionnel pour ceux que l'on désigne comme roms. Ils le découvrent des fois, souvent, c'est la première fois qu'ils découvrent les baraques et les caravanes en arrivant en France. Alors, c'est vrai que dans les bidonvilles, comme l'a dit Élise, il y a toute une organisation sociale qui se met en place parce que ce sont des vrais lieux de vie. Qui dit lieu de vie, dit aussi lieu de sociabilité. Donc par exemple, quand un bidonville est ouvert, c'est-à-dire qu'un bidonville s'ouvre, un terrain est accessible, on va commencer à construire ce qu'on appelle les baraques. Donc ce sont des petites maisons, c'est plutôt des petites maisons individuelles qui abritent des cellules familiales. Donc en fonction de la composition familiale, les familles vont s'installer dedans. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'elles vont quand même recréer aussi une forme d'appropriation de ces espaces-là en aménageant la décoration intérieure, du revêtement, et donc vraiment véritablement en faire un chez-soi. Donc il y a quand même cette appropriation matérielle et symbolique de ces lieux que l'on peut voir tout le temps un peu marginalisés ou voilà, irrécupérables, qui sont en fait vraiment vraiment habitées.
Et se pose aussi la question des ressources économiques auxquelles ces populations ont accès. Je vous propose d'écouter justement le témoignage de Mitko, qui a vécu dans un bidonville à Bagnolet en 2004 et qui racontait son parcours dans un épisode des Pieds sur Terre, diffusé donc sur France Culture le 9 septembre 2021.
Moi, qu'est-ce que je faisais? Je t'explique. On est allé chez Aeroline, les chauffeurs bulgares. Ils ramenaient des cigarettes clandestinement. Ils nous revendaient, on achète et on revend dans les bidonvilles. Et moi, je vendais des cigarettes aux Bulgares. Il y avait des gens qui achetaient des bières, des coca, des trucs comme ça, des limonades. Et quand tout est fermé, bah, les gens ils vont acheter chez eux. Bah, moi, ça me suffisait avec les cigarettes, je trouvais mon business. C'était pas beaucoup, hein. Je faisais 10-20 euros par jour. Mais bon, pour manger, je me suis dit, si je peux faire ça, je vais le faire le temps que je peux à trouver du travail.
J'ai trouvé mon business. Olivia Mercier, comment s'organisent justement les relations économiques entre le bidonville et le territoire environnement, et qui jouent aussi un rôle dans la façon de construire sa vie, puisqu'on l'a dit, c'est encore une fois un espace de vie et donc de sociabilité. Comment ces relations économiques-là se tissent?
Alors oui, c'est vrai que les bidonvilles sont des lieux de vie qui se situent en périphérie des centres urbains, mais en Seine-Saint-Denis, ils sont jamais vraiment totalement éloignés. Ils sont toujours en interaction avec l'environnement local. Et on observe beaucoup d'arrangements avec les acteurs économiques présents sur le territoire. Alors je vais prendre quelques exemples pour compléter le témoignage qui est très intéressant qu'on vient d'entendre. Alors sur un bidonville en Seine-Saint-Denis, je vais pas préciser la municipalité. Le terrain a depuis été expulsé. Une grande enseigne d'électroménager qui avait passé un accord tacite avec certains habitants afin de déposer des réfrigérateurs, machines à laver directement sur le terrain, ce qui permettait à cette grande enseigne de baisser les coûts qui sont liés à au recyclage de ces biens. Et donc une fois que les habitants du bidonville les avaient récupérés, ils les réparaient et pouvaient les vendre soit aux habitants du bidonville en question, aux riverains, mais aussi à plein de gens qui connaissaient donc cette bonne affaire parce que les réfrigérateurs étaient vendus à bas prix et qui venaient de loin pour bénéficier de cette deuxième grande enseigne.
Élise Roche, je me permets de vous faire intervenir ce qu'on me dit dans l'oreillette que vous souhaitez réagir justement à ces propos d'Olivia Mercier sur cette question-là justement des liens économiques entre le territoire du bidonville et le territoire plus large aussi du département autour.
Oui, merci. C'était juste pour abonder et aller dans le même sens et témoigner de cette diversité des activités qu'on qualifie parfois d'activités économiques informelles et qu'on peut assez facilement attribuer aux habitants des bidonvilles pour avoir cette vigilance-là, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé les mesures transitoires qui avaient lieu jusqu'en 2014 et qui étaient des formes de mesures protectionnistes, en fait, pour interdire tout un pan du marché du travail aux ressortissants, notamment roumains.
C'est ça, parce qu'il faut bien le préciser, voilà. Hein, Roumanie et la Bulgarie font partie de l'Union européenne depuis 2005, mais il y avait cette spécicité qui effectivement bloquait le marché au marché du travail.
Voilà, ce qui a énormément joué, évidemment, pour l'insertion économique des populations concernées qui ne pouvaient pas occuper un emploi classique ou en tout cas dans des franges très très particulières du marché du travail, ce qui a pu amener aussi au développement d'autres pratiques pour survivre tout simplement. Et juste à titre de témoignage, dans le cadre du relogement que j'ai pu étudier de façon un peu plus précise à Saint-Denis, le projet initié par la municipalité, il était, quand il y a eu un diagnostic préalable, on a demandé aux personnes est-ce qu'elles souhaitaient disposer d'espaces pour pratiquer le ferraillage, la récupération des fils électriques et ainsi de suite. Et leur réponse était unanime, à savoir, mais surtout pas, on veut pouvoir travailler comme tout le monde, c'est la ferraille, c'est salissant, ça nous rend malade, on n'aime pas ça. Autrement dit, l'image un peu attribuée des fois sur les activités économiques qui peuvent être pratiquées en bidonville, il peut y avoir une part de réalité, hein, Olivier en parlera beaucoup mieux que moi, mais elle provient d'une de mesures législatives, et d'autre part, la plupart des personnes en bidonville peuvent avoir très envie d'avoir juste un travail, entre guillemets, classique.
Olivia Mercier, sur ces activités activité et alors je sais que vous voulez réagir et puis ensuite nous parler aussi d'une autre activité que vous avez beaucoup étudiée, et notamment la BIF, et nous raconter en quoi consiste cette activité économique-là.
Oui, oui, c'est vrai que les ferrailleurs ou les bifins, ce ne sont pas des activités professionnelles qui sont seulement exercées par les publics roumains habitant en bidonville. Élise a tout à fait raison de le rappeler parce que c'est vraiment important. Il y a d'ailleurs tout un milieu concurrentiel aujourd'hui avec une inflation et une paupérisation assez forte dans notre pays qui fait qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui interviennent dans ces activités-là. Et c'est vrai que par exemple l'association Assina défendait aussi l'accès à l'emploi salarié, ce qu'on a pu mettre en œuvre aussi, alors à travers l'insertion par l'activité économique majoritairement, mais pour pouvoir accéder aujourd'hui en France à un logement pérenne, hein, c'est aussi le sujet de quelle politique de relogement pour les bidonvilles. Pour pouvoir accéder à un logement stable, il faut effectivement tout un ensemble de documents que la ferraille non déclarée ou la BIF non déclarée ne permettent pas d'obtenir. Donc c'est vrai que c'est aussi, ça peut être des impasses en termes d'insertion stable en France.
La BIF, il faut peut-être définir aussi cette activité-là, Olivia Mercier. C'est l'idée de récupérer des objets puis les retaper pour les revendre.
Tout à fait. La BIF, c'est une pratique très très ancienne. Hein. Il y a les chiffonniers, c'est l'héritage des chiffonniers au 19e siècle. Et donc oui, c'est une activité aujourd'hui donc qui n'est pas pratiquée que par les personnes vivant en bidonville.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est une activité marchande qui permet en fait une forme d'insertion au-delà du simple, mais qui est déjà pas mal, mais de la simple insertion par le social ou par le médico-social. C'est une façon de se réapproprier l'espace marchand aussi.
Tout à fait. L'espace marchand et l'espace urbain, parce que une fois que les objets sont collectés, alors soit sur le trottoir, dans les poubelles ou donnés, hein, ce qui fait aussi des économies de dons, parce que après on peut tisser aussi des liens, les habitants des bidonvilles peuvent tisser des liens avec des riverains qui vont aussi leur donner des choses. Donc il y a toute une économie du don de proximité qui se met en place. Et certaines communes, notamment en Seine-Saint-Denis, accueillent, alors c'est vraiment très marginal, il faudrait que ça soit développé à une échelle plus importante, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais des espaces marchands qui donnent la possibilité, dans de bonnes conditions et en sécurité, pour ces récupérateurs-vendeurs de venir vendre à des acheteurs qui sont aussi de plus en plus nombreux. Donc il y a vraiment cette corrélation entre objets vendus, clients, et donc intégration et appropriation de l'espace urbain et d'une activité marchande.
On l'a vu grâce à vous, Olivia Mercier, il y a un véritable tissu à la fois social, économique, une vie qui se tisse jour après jour au sein de ces bidonvilles et aussi en lien avec le territoire environnant. Reste un mystère qu'il nous faut tout de même maintenant aborder. On se souvient tout de même qu'au début des années 70, un tournant était censé se produire. C'est la célèbre déclaration de Jacques Chaban-Delmas selon laquelle l'État doit en finir avec les bidonvilles. Or, de fait, les bidonvilles sont toujours là, malgré les destructions et les plans d'expulsion. Et c'est notamment ce que raconte une archive diffusée le 17 octobre 1972.
Les Franco-Moisins à Saint-Denis, c'était il y a 4 ans l'un des plus grands bidonvilles de la région parisienne. Au printemps prochain, il sera remplacé par une pelouse et la plupart de ses habitants iront s'installer dans les HLM d'en face. Oui, c'est vrai, en France, dans moins de 2 ans, les grands bidonvilles auront disparu. Mais 35 000 personnes vivent encore aujourd'hui dans le carton et la tôle ondulée. Mais 1 million de Noirs, de Portugais, d'Algériens et de Français vivent encore dans des taudis. C'est la misère crasse des banlieues et des vieux quartiers que révèle de temps à autre la pioche des démolisseurs. Depuis quelques années, on ne se contente plus de casser les bidonvilles, de casser les taudis pour chasser cette misère ailleurs. En 3 ans, le montant des crédits de l'État pour la résorption de l'habitat insalubre a été multiplié par 6, cette année 125 millions. Et en 3 ans, le nombre des logements, des cités de transit et des foyers de travailleurs n'a cessé de croître. Mais aujourd'hui, si l'on possède l'argent, les crédits nécessaires, on doit faire face à un problème qui devient inquiétant, celui des terrains. En ville, la place coûte cher, de plus en plus cher, et les municipalités ne cèdent pas volontiers leurs terrains pour loger des Noirs ou des Portugais. Loger des immigrés, c'est très bien, dit-on, mais allez plutôt construire chez le maire voisin. Et c'est pourquoi ils auront peut-être demain un logement décent, mais un logement qu'ils devront quitter plus tôt que les autres pour se rendre sur le chantier.
Voilà, les politiques de résorption de l'habitat insalubre qui sont en marche en 1972. Thomas Aguilera, que s'est-il passé à ce moment-là? Pourquoi ce tournant des années 70? C'est une forme de prise de conscience à ce moment-là?
Alors effectivement, l'État a déclaré la fin des bidonvilles dans les années 70, avec un dernier bidonville notamment qui aurait été évacué à Nice. Mais en fait, la façon dont l'État a résorbé les bidonvilles, éradiqué ce phénomène, a couru sur plusieurs décennies, un peu comme on l'a vécu depuis les années 2005, avec une forme d'institutionnalisation de politique qui a pris du temps dès les années 50, en fait, avec des reportages de journalistes qui vont dans les bidonvilles, qui font des recensements bricolés. Il y a eu France Soir, par exemple, et ensuite le ministère de l'Intérieur qui faisait des enquêtes pour surveiller les militants supposés activistes algériens, etc. Donc avec des milliers de personnes qui résidaient dans des bidonvilles aux portes de Paris, et donc des formes de considération qui étaient un peu parallèles, la construction d'un enjeu public progressif qui s'est politisé, qui était surveillé, qui progressivement en fait a donné lieu à la mise à la législation. Il y a eu trois grandes lois entre 64, 70, 72 pour mettre en place des programmes nationaux de résorption des bidonvilles avec des crédits. Donc il a fallu trois lois parce qu'à la base la première n'a pas été vraiment mise en œuvre. Bon, et donc en fait ça a été un double cadrage, à la fois toujours ce cadrage lié à la racialisation des populations notamment supposées y vivre algériennes et également sur l'extrême pauvreté. Une forme de cadrage sur l'extrême pauvreté. Et puis d'un autre côté, la question du logement qui s'est progressivement imposée, notamment comme on l'a vu dans les années 2000-2010 suite à des incidents, des incendies par exemple qui ont fait des morts, l'abbé Pierre dont on parle beaucoup en ce moment, l'appel de l'abbé Pierre. Et donc progressivement le Parlement et l'Assemblée ont voté des lois qui ont mis en place les crédits suffisants. Alors ce qui s'est passé, c'est que effectivement il y a eu une politique nationale assez verticale qui s'est mise en place et avec des relogements temporaires aussi qui ont aussi été étudiés par qui ont été mis en parallèle avec les villages d'insertion dont on a parlé tout à l'heure, et donc des cités de transit qui se mettent en place et qu'on est supposé voir disparaître au bout de 2 ans, et progressivement ces cités vont perdurer, notamment pour les populations algériennes, sachant que les Espagnols et les Portugais ont été relogés plus rapidement dans des grands ensembles, et les dernières cités de transit en fait ont persisté jusqu'au milieu des années 90. Mmh. Et puis en parallèle, donc sur ça a été proclamé la fin des bidonvilles, et puis en parallèle autour des enjeux de précarisation, des enjeux urbains, des enjeux de foncier et diverses migrations et la question européenne et des mesures transitoires qu'on a évoquées à l'instant, et bien comme effet aussi d'un oubli qui a été déposé, une espèce de voile d'oubli qui a été déposé par l'État sur cette question du logement informel, notamment sur des terrains, et bien dans les années 2010, l'État s'est retrouvé et les collectivités face à un phénomène qu'on n'arrivait même plus à qualifier. C'est pour ça que je voulais rebondir aussi sur ce que disaient mes collègues tout à l'heure sur le campement illicite, les bidonvilles. Dans les années 2000, l'État préfère parler à tous les niveaux de campement illicite, en prenant bien soin de ne jamais prononcer le terme bidonville, qui rappelait les années 60-70, qui rappelait qu'en fait, à la fois, il était possible de les résorber, mais aussi qui rappelait aussi quelque part un échec de l'État qui les avait résorbés et qui là se retrouvaient face à peu près au même phénomène, parce que Élise Géographe pourra en dire des choses mieux que moi, mais à peu près aux mêmes endroits que dans les années 60-70. Et donc en fait, on peut analyser la période dans laquelle on est depuis les années 2010 comme les conséquences d'un oubli qui a été provoqué sur cette question des bidonvilles, d'où les travaux aussi des historiens qui sont très importants, mais aussi sur le type de politique que l'on peut et qu'il faut mettre en place. Éventuellement, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais en tout cas, c'est des parallèles qui sont nécessaires à la fois avec ce qui s'est passé dans les années 60-70, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, mais aussi pour voir qu'est-ce qui s'était fait et regarder aussi d'autres pays, parce que c'est assez important de comprendre comment en fait l'État intervient sur ces bidonvilles, qui est à la fois un enjeu de logement et un enjeu social. Donc la première question à se poser, c'est quel est le secteur de politique publique qui va attraper cette question-là? Est-ce qu'il faut reloger les gens ou plutôt les aider à
intégrer le marché de l'emploi, par exemple, oui.
Ensuite, des enjeux de gouvernance. Quels sont les acteurs et quelles sont les stratégies qui sont adoptées? Résorber, ça veut dire quoi? Ça veut dire reloger les gens ou normaliser des situations et avancer progressivement.
Thomas Aguilera, vous parlez d'un oubli, peut-être juste pour redonner quelques bornes chronologiques aux auditeurs, aux auditrices. Il y a tout de même eu effectivement une sorte de décennies, on va dire, où la question a été relativement occultée. Effectivement, il y a eu cette politique de public très forte mise en place dans les années 70. Et puis ensuite, on se rend compte dans les années 90 que le phénomène revient. Et là, on en arrive à la dimension sociologique et de nationalité très importante. C'est aussi la chute du régime de Nicolae Ceaușescu en 89, et on voit les populations donc venues de Roumanie, de Bulgarie, arriver et reposer la question sur la table. Et puis vous l'avez dit, dans les années 2010, tout bascule.
La règle générale est claire, les clandestins doivent être reconduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms, en aucun cas. J'ai fait le point avec le ministre. Aujourd'hui, plus de 60% des aires de stationnement légales sont prévues. Mais les Roms qui viendraient en France pour s'installer sur des emplacements légaux sont les bienvenus. Mais en tant que chef de l'État, puis-je accepter qu'il y ait 539 campements illégaux en 2010 en France ? Qui peut l'accepter ?
Voilà, le 30 juillet 2010, Nicolas Sarkozy prononce son discours de Grenoble dans un contexte particulier. Deux altercations entre communautés, les gens du voyage et forces de l'ordre tendent les esprits et donc les discours. Élise Roche, en quoi ce discours de Nicolas Sarkozy a-t-il effectivement marqué un tournant ?
Alors, je réagis, et puis si ça vous convient, je reviendrai un tout petit peu sur ce que racontait Thomas juste avant. Mais effectivement, ce discours de Nicolas Sarkozy, président de la République à l'époque, a été tout à fait marquant. D'abord, c'est parce que c'est un peu un modèle aujourd'hui d'antidiganisme. C'est un discours qui a valu à la France d'être montré du doigt, condamné au niveau européen, parce que il procède à une assimilation entre faits délictueux, délinquance, immigration, gens du voyage et population rom. Donc voilà, dans un joyeux fourre-tout, j'ai envie de dire, toutes ces populations sont mélangées, confondues et toute personne assignée comme rom, on va jamais jusqu'à vérifier si elle s'auto-définit comme telle, est de toute façon assimilée à la délinquance. Donc ça a provoqué de nombreux réactions, hein, sans attendre les réactions au niveau européen. D'ailleurs, alors sur le plan associatif et militant, mais aussi sur le plan des recherches, il y a un essor des recherches aussi à la suite de ce discours-là, parce que ça a interpellé pas mal d'acteurs académiques. Et aussi, et principalement, j'ai envie de dire, au niveau des politiques locales, c'est aussi à partir de là, même s'il y en avait avant, qu'il y a un redémarrage.
Oui, c'est concomitant. Voilà. Oui. Et de fait, vous le dites, Élise Roche, alors c'est vrai que c'était un tout petit peu avant, mais c'est peut-être une forme d'air du temps, c'est à cette époque-là qu'il y a le démantèlement des bidonvilles à la fois du Hanoul et aussi de la Campra. C'est aussi un moment où on se pose la question, de fait, du relogement aussi.
Voilà, c'est le moment, en fait, on a une fenêtre là de 5-6 ans, 2010-2014 à peu près, hein, mais on déborde un peu des deux côtés, où les acteurs locaux vont prendre les rênes pour essayer de répondre ce retour qui n'en est pas vraiment un, mais des bidonvilles, notamment par le biais de solutions voilà très localisées, des espèces de sas d'insertion qu'on va parfois appeler des villages et ainsi de suite. Dans le cas dionysien en particulier, mais il est pas isolé, hein, c'est le cas ailleurs en France aussi, c'est bien en réaction au discours de Grenoble, à ce discours de Nicolas Sarkozy, que la municipalité va finir par décider d'assumer le relogement des populations du Hanoul. Vous l'avez rappelé, l'expulsion du Hanoul, c'est début juillet. Les personnes, les habitants du Hanoul sont en errance quelque part pendant un mois. Et la municipalité enclenche un protocole, un processus qui peu à peu va être un processus de relogement suite au discours de Grenoble pour dire, pour aller vite, hein, nous, on va essayer et réussir à reloger dignement. Alors, je ne sais pas si je peux revenir un instant sur ces questions de cité de transit.
Allez-y, mais vous avez 20 secondes et ensuite j'aurai une question très importante pour Thomas Alighiera, donc je vous laisse deux secondes.
Très rapidement, en fait, si on compare la séquence de la construction des cités de transit dans les années 60-70 et la séquence à laquelle on assiste depuis une vingtaine d'années, il y a deux similitudes qui sont majeures à souligner. C'est le caractère temporaire de l'habitat qui est proposé à ces populations qui font l'objet d'une racisation, d'une part, et le fait que c'est le fruit d'un rapport de force entre acteurs locaux et État.
Et ben alors
ce rapport de force est omniprésent.
Mais justement, Thomas Aguilera, il y a ce rapport de force qui est extrêmement fort. On l'a vu aussi dans le cas des Jeux Olympiques, à partir du moment où un territoire se veut compétitif, attractif, et donc potentiellement il y a une course aussi au foncier qui va s'engager. Pourquoi est-ce que l'État ne prend pas le lead aussi de ces politiques-là pour éviter ce genre de conflit à l'échelle locale?
Alors, il ne faut pas oublier la fin de l'histoire, en fait, puisqu'on s'est arrêté sur le discours de Grenoble.
Et là encore, vous avez 20 secondes pour nous faire la fin de l'histoire.
Institutionnaliser très rapidement une politique un peu d'expérimentation, une espèce de forum de réflexion, de rencontre, qui s'appelle la DIAL, qui est une délégation interministérielle, qui a produit des choses, qui parle de bidonville et qui tente de travailler avec les acteurs et qui essaye de mettre à l'agenda cet enjeu. Mais il y a une chape de plomb qui est posée par le ministère de l'Intérieur et qui est aussi en charge de réguler l'ordre public et notamment autour des Jeux Olympiques. Effectivement, on a vu une politique assez volontariste de ce point de vue-là, d'éviction, d'expulsion assez systématique des populations les plus précaires, pas simplement en bidonville, mais surtout des campements et des squats aussi, sur les lieux où, effectivement, les Jeux Olympiques devaient apparaître plutôt comme une vitrine que comme le symptôme d'un État qui ne parvient pas à reloger.
Merci beaucoup, Thomas Aguilera. Je suis désolée, cette émission doit se terminer. Merci à vous, Élise Roche et Olivia Mercier, d'avoir participé à cette émission.